Vin. Alors j'espère que ce sera aussi en direct sur Facebook et sur le site de l'Église pour ceux qui voudraient écouter de chez eux. Et ce sera aussi enregistré, donc ce sera accessible en différé. Alors je vais faire la lecture, Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc c'est un chapitre très fort. Il fait suite au chapitre 19 que nous avions vu, le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ pour établir son règne, le règne messianique. Le règne du Messie est annoncé dans toute la Bible et nous croyons que le Messie est venu en deux temps. Le premier temps, c'était le temps du sacrifice pour mourir pour nous, pour nos péchés, pour sauver l'humanité, la réconcilier avec son Créateur. Et le deuxième temps, ce sera le temps du règne, d'établir la justice sur toute la terre. Nous avons vraiment hâte que la justice vienne sur la terre. Quand nous voyons ce qui se passe, et encore, on ne voit pas tout. On voit si peu. Je pense aux policiers qui sont travaillent dans certains endroits. Ils voient la misère du monde et se suicident des fois parce qu'ils n'en peuvent plus. Hein. Ils n'ont pas de ressources, des fois, morales pour tenir le coup. Il faut vraiment prier pour les policiers, les pompiers aussi, qui sont, paraît-il, de plus en plus harcelés, hein, maltraités. Voilà, le monde. Ne va pas mieux. Le monde est en chute, décadence morale, mais aussi une corruption. Et c'est ce qui est écrit d'ailleurs décrit dans les chapitres 17-18. Et le jugement de Dieu vient frapper aussi cette corruption et Jésus-Christ vient établir sa justice. Mais il y a plusieurs éléments qui se passent dans ce chapitre qui sont très intéressants et on va commencer par ce règne d'abord de 1000 ans, mais qui commence avec le fait de lier Satan. Donc il y a un ange qui a la clé de l'abîme. L'abîme, c'est une expression que l'on trouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament et qui est un lieu, une sorte de prison pour les démons qui les retient prisonniers en attendant leur jugement. Si vous prenez avec moi par exemple Luc 8, 31. Il y a cet homme qui est possédé. Verset 30, Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Et ces démons priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et donc, les démons, lorsqu'ils sont jugés, ils sont d'abord jetés dans cet abîme. C'est un mot qui veut dire une sorte d'abysse, hein, de creux presque infini. Et c'est une sorte de prison où Dieu les garde parce qu'il les relâche à un certain moment, au moment de la colère. Lorsqu'on regarde l'Apocalypse, il y a un autre moment où les démons sont relâchés. Si vous prenez Apocalypse 9, ils sont relâchés de l'abîme. Apocalypse 9. Le cinquième ange sonna de la trompette. Donc c'est la cinquième trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc il s'agit certainement d'un ange qui a la clé de l'abîme. Il ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc qui étaient les hommes qui avaient le sceau de Dieu sur leur front ? Dans l'Apocalypse. Les 144 000, rappelez-vous, si vous connaissez un petit peu, au chapitre 7, il y a 12 000 hommes juifs de chaque tribu qui reçoivent un sceau sur leur front et eux sont épargnés et ils sont un témoignage de la véracité de Dieu. Parce que les fléaux tombent à droite, à gauche, partout et eux, ils sont totalement épargnés. Ce qui révèle que c'est un jugement de Dieu qui vient. Voilà, parce que les enfants de Dieu sont épargnés, en particulier les 144 000 juifs de l'Apocalypse. Donc, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux, etc. Ce sont des démons qui sont relâchés de l'abîme, qui vont parcourir la terre et être des instruments du jugement de Dieu. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que les hommes qui refusent Dieu, ils se mettent du côté des démons. Hein. Ils choisissent, et on ne veut pas choisir, on dit « Non, mais moi je ne suis pas pour les démons, moi, mais je ne suis pas pour Dieu non plus. » Oui, mais tu ne peux pas être entre les deux. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Et à cette époque-là, pendant la grande tribulation, ça va être terrible. Il y a des démons qui persécutent les gens déjà. Il y a des gens qui sont dans des affres terribles, dans des possessions démoniaques où ils se font du mal. Hein. Ils se suicident parfois, ils se détruisent, ils tuent les autres. Il y a des meurtriers qui sont... On voit bien qu'il y a quelque chose de détraqué hein, chez eux. Et même l'influence de Daesh, hein, le lavage de cerveau, c'est vraiment démoniaque. Il y a quelque chose de torturer les gens, de leur couper la gorge, de mettre des armes dans les mains des enfants pour qu'ils tuent les gens. C'est vraiment démoniaque. Donc cet abîme, c'est une prison. Et au chapitre 20, nous voyons que Satan, qui est appelé aussi le diable, donc diable, c'est le mot de quelle langue ? Grec, qui veut dire Non. C'est vrai qu'il fait du mal, mais c'est celui qui accuse. Hein, celui qui lance littéralement des choses, le diable, diabolo, celui qui accuse. Et puis Satan, c'est un mot de quelle langue? Satan? C'est quelle langue? Hébreu. C'est le mot hébraïque. Donc diable, c'est le mot grec, et Satan, c'est le mot hébraïque qui veut dire l'adversaire. Voilà. Le mot diable n'est pas dans l'Ancien Testament, par exemple, hein, parce que c'est que le mot Satan ou le serpent ancien. C'est très intéressant, hein, c'est une révélation ici claire que le serpent dans la Genèse était le diable. Parce qu'il y a des gens qui ont des doutes, ils disent oui, mais c'était peut-être juste un animal intelligent. Non, on voit bien que c'était pas juste un animal intelligent. C'était Satan lui-même qui s'était déguisé. Et donc Satan est jeté dans cet abîme pour y être lié, enchaîné, enfermé pendant 1000 ans. Alors, cette expression 1000 ans a suscité beaucoup de débats, et j'aimerais que David nous montre quelques images. La première est un schéma. Voilà. Il y a deux grandes interprétations de ces 1000 ans. Il y a ce qu'on appelle l'amillénarisme et le prémillénarisme. Il y en a une troisième qui s'appelle le postmillénarisme, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Mais les deux grands camps théologiques, c'est les amillénaristes et les prémillénaristes. Les amillénaristes, c'est un A privatif, c'est-à-dire ils ne croient pas vraiment que Jésus-Christ va revenir régner 1000 ans. Ils disent c'est pas littéral, il faut pas le prendre littéralement. 1000 ans, ça veut dire une grande période. Et puis, voilà comment ils interprètent les événements. Ils disent que le règne de Christ a déjà commencé à la résurrection. Nous sommes sous le règne de Christ et Satan est quelque part, d'une certaine façon, lié. Puisque c'est ce qui est écrit, hein, il est lié. Nous sommes déjà dans ce règne, mais il sera totalement fini, ce règne sera totalement accompli lorsque Christ va revenir, et là nous aurons des nouveaux cieux, des nouvelles terres. Donc, il ne croit pas que Apocalypse 20 suit vraiment Apocalypse 19, parce qu'Apocalypse 19, c'est le retour glorieux. Et là, ils mettent le retour glorieux après le millénium. Donc, ils mettent Apocalypse 20 avant 19, et ils interprètent de façon allégorique un certain nombre, les 1000 ans par exemple, ou même le Satan qui est lié. Pouvez-vous me dire où l'on voit que Satan est lié? Ben moi je vois qu'il est quand même très en forme et très actif. Et comme a dit quelqu'un, une fameuse phrase, hein, s'il est lié, il a une chaîne très longue. Vous savez, un peu comme un chien qu'on attache, mais il a une chaîne tellement longue que c'est comme si on l'attachait pas. C'est dit qu'il y a une longue chaîne, oui d'ailleurs, oui, c'est même écrit, mais... Ah oui, c'est ça, voilà, c'est eux-mêmes le disent, oui, c'est ça. Franchement, si on regarde le texte sans lunettes théologiques, sans a priori, d'abord, l'expression 1000 ans se retrouve 6 fois dans ce chapitre. C'est pas juste, il dit une grande période, 1000 ans. Non, il dit 6 fois, 1000 ans. Alors on peut dire, oui, mais il y a ce verset dans la Bible, par exemple dans 2 Pierre 3:8, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Donc, vous voyez bien, ils disent que 1000 ans, c'est un jour, c'est pas littéral, encore une fois. L'Apocalypse, c'est plein de symboles. Oui, mais ce verset qui dit que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, c'est parce que Dieu est dans l'éternité. Dieu n'est pas comme nous, prisonnier du temps. Et pour lui, effectivement, 1000 ans, ben, il le voit là, c'est tout petit. Parce que, il n'est pas dans le temps. Et effectivement, lui, que ça dure un jour ou 1000 ans, c'est pareil pour Dieu. Parce qu'il a toute l'histoire étalée devant lui. Hein? Nous attendons le futur, nous le voyons venir petit à petit, mais Dieu a déjà tout étalé devant lui parce qu'il est dans l'éternité. Mais ça ne veut pas dire que 1000 ans ici valent un jour ou que c'est allégorique. Non, 1000 ans, quand on lit normalement, c'est littéral, il y a vraiment 1000 ans. Il n'est pas dans le temps. Alors, les prémillénaristes, c'est le suivant, interprètent les événements autrement. Ils croient qu'il y a la résurrection de Christ, l'Église, qui est enlevée, ce qui fait partie de la première résurrection, et qu'il y a une période qui est appelée la tribulation, période de fléau, de jugement, à la fin de laquelle Christ revient au chapitre 19, comme on l'a vu la dernière fois, et après ce chapitre 19, c'est le règne du Messie pendant 1000 ans, le millénium, hein, qui sera terminée par Satan qui sera jeté dans l'étang ardent, par le, ensuite le jugement dernier, et ensuite la création de nouvelles terres, de nouveaux cieux, au chapitre 21-22. Et c'est une interprétation, on peut dire, littérale un peu de l'Apocalypse et de la fin des temps. Notre Église soutient cette interprétation. Voilà, nous sommes prémillénaristes. Nous croyons, par exemple, qu'Israël va avoir un rôle dans le règne de Christ. Christ va régner à Jérusalem, c'est écrit dans les prophéties. Les amillénaristes disent non, c'est fini, Israël, c'est terminé, c'est l'Église. Et Jésus-Christ ne va pas revenir sur la terre, il va revenir faire les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Donc, ils ont rejeté Israël quelque part. Hein. Et toutes les prophéties sur Israël sont spiritualisées pour les appliquer à l'Église. Donc, quand ils lisent les prophètes de l'Ancien Testament, ils appliquent ça à l'Église. Voilà. Et puis, alors c'est très, des fois c'est presque rigolo, les théologiens qui tiennent cette interprétation amillénariste, mais ils inventent, il faut qu'ils trouvent une explication à tout. Donc ils disent, voilà, Satan est lié, et bien par l'évangile, Dieu rajoute des anneaux à la chaîne, à chaque âme sauvée, il y a un anneau de plus à la chaîne. Alors, c'est intéressant, mais ça correspond à rien dans le texte ici. Il est vraiment, on voit bien, empêché, enfermé. Et qu'est-ce qui est écrit? Pour qu'ils ne séduisent plus les nations. Or, nous voyons, il y a une énorme séduction qui est encore à l'œuvre. Donc, voilà, ou on interprète littéralement, ou alors on part dans des interprétations fantaisistes. Et voilà, on peut cacher maintenant le... Non, il y aura encore une image, pardon, il y aura encore une image après. Mais tu peux cacher en attendant. Dans le texte ici, il est vraiment, on voit bien, donc, empêché. Pourquoi Satan est-il enchaîné? Pour ne pas séduire les nations, mais en fait, il y a une raison évidemment plus grande. C'est que le règne du Messie sera total. Aujourd'hui, Jésus peut régner dans le cœur d'un chrétien. Et encore, il ne va pas régner à 100% parce que malheureusement, nous ne lui laissons pas 100% des fois, hein, souvent. Mais quand Christ va revenir de son retour glorieux, il va régner totalement sur toute la terre. Il n'y aura plus aucun mal, plus aucun péché qui sera toléré sur la terre. Et pour qu'il n'y ait plus de péché, il faut que Satan soit éloigné. Parce qu'il est le tentateur suprême, l'accusateur, la source du mal. C'est quand même lui, le serpent, qui a conduit Ève à désobéir. Ça n'enlève pas notre responsabilité. Nous avons péché, nous sommes coupables. Mais la Bible nous montre quand même que Satan est à l'origine du mal, qu'il est la source du mal. Ce n'est pas Dieu qui a créé le mal, hein, c'est Satan qui est la source du mal. Et quand les gens disent, mais pourquoi il y a tout ce mal sur la terre? Mais c'est simple, c'est parce qu'il y a un diable, il y a un Satan qui pousse les gens et qui les gens se laissent berner et le suivent aveuglément au lieu de suivre Dieu qui veut le bien. Et donc le fait qu'il soit attaché, si on peut dire, il ne peut plus séduire et entraîner les hommes au mal. On peut lire dans Ésaïe chapitre 11 un extrait de ce que sera ce règne messianique. Ésaïe chapitre 11, on voit que c'est un nouveau monde quasiment, où il n'y a plus de mal, même plus de carnivores. Ésaïe chapitre 11, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Qui était Isaïe? Le père de David. Donc c'est une façon de dire un enfant de David, hein, va venir. Et le Messie est fils de David. Donc on voit bien que c'est messianique là. Un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne prononcera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, hein, qui est un serpent aussi venimeux. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. On voit bien que c'est une description de quelque chose qui n'existe pas, où il n'y aura plus de mal, les méchants seront jugés, la justice régnera et la connaissance de l'Éternel sera partout. C'est cela que Christ va amener pendant 1000 ans sur notre terre. Est-ce qu'il sera seul? Eh bien non, nous régnerons avec lui et c'est quelque chose de merveilleux. Par exemple, en Luc 22, mais il y a plein de versets qui disent que les enfants de Dieu régneront avec Christ. Luc 22, verset 28. Il parle à ses disciples. Vous, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et il dit à ses disciples, qui sont les premiers chrétiens, vous allez juger même les tribus d'Israël, vous allez régner, être assis sur des trônes pour juger. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans Apocalypse 20. Verset 4, je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Donc les enfants de Dieu, le peuple de Dieu va juger, va être avec Christ, va régner avec Christ sur les autres habitants de la terre. Il y aura également, verset 4 toujours de Apocalypse 20, les âmes de ceux qui avaient été décapités. On découvre que l'Antichrist va exercer une dictature telle que si on refuse sa marque et si on refuse de l'adorer, parce qu'il y aura les deux en même temps, il faudra recevoir sa marque pour acheter et vendre et l'adorer, eh bien, on est décapité. Voilà. C'est pour ça que certains commentateurs bibliques actuels disent est-ce que l'Antichrist ne serait pas un islamiste forcené, puisque la décapitation a été pratiquée par Daesh assez fréquemment. C'est une interprétation intéressante, mais on n'est pas sûr du tout que ce soit ça. Ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. On sait que l'Antichrist va être un dictateur. Il va utiliser ce qu'il veut, mais il va imprimer son règne d'une façon violente et cruelle. Et ceux qui auront le témoignage de Jésus, qui croiront en Yeshua, seront des cibles. Voilà, et seront forcément tués. Ils ne pourront pas survivre. S'ils se cachent, ils ne pourront pas avoir la marque de toute façon et ils auront du mal à acheter et vendre. Ce sera très compliqué et ce sera heureusement très court, ce règne, 3 ans et demi. Regardez, la Deuxième Guerre mondiale a duré 6 ans, à peu près, 7 ans, on peut dire. Mais ça paraît on dirait que ça a duré 20 ans. Pour ceux qui l'ont vécu, c'était très long ces années où les nazis, par exemple, étaient en France, l'occupation. Mais en fait, c'était assez court, mais heureusement que c'est court, parce que c'est des moments très difficiles. Est-ce que nous, on va être là, décapités dans cette dictature? Bien, là, nous croyons que non, nous croyons que nous serons enlevés avant, que la première résurrection, l'enlèvement de l'Église, a lieu avant l'arrivée de l'Antéchrist. C'est ce qu'il dit en 2 Thessaloniciens, il faut que celui qui retient l'Antéchrist ait disparu, et nous croyons que c'est le Saint-Esprit dans l'Église. Mais ce qui nous étonne, c'est que après avoir régné, Satan est relâché, après que Christ ait régné 1000 ans, Satan est relâché. Verset 7. Pourquoi Dieu relâche-t-il Satan de sa prison? Surtout qu'immédiatement, il rassemble des populations contre Christ. Ils sont très nombreux comme le sable de la mer et ils s'attaquent au camp des saints et à la ville bien-aimée. Qu'est-ce que c'est la ville bien-aimée? Jérusalem. C'est la Jérusalem terrestre encore. C'est pas la céleste là. C'est terrestre toujours. Et qu'est-ce que ça nous explique? Qu'est-ce que ça nous révèle? Le fait que Dieu relâche Satan et qu'à nouveau il y a des milliers de gens qui le suivent. C'est que malgré ces milliers d'années, ces 1000 ans, ces centaines d'années, où les gens vont pouvoir vivre d'ailleurs 1000 ans, où ils vont voir la justice de Christ, ils vont avoir cette paix totale, il n'y aura plus de dommages, plus d'angoisse, plus de vol, plus de corruption, plus de désobéissance, plus de mensonges. ça va être vraiment le paradis sur terre, on peut dire. Et malgré tout ça, lorsque Satan est relâché, ils vont se précipiter derrière lui. Ça révèle le cœur humain. C'est que le cœur humain, vous pouvez lui montrer ce que vous voulez, s'il ne veut pas obéir à Dieu, il se révolte. Les pharisiens et beaucoup de gens du temps de Jésus ont vu des miracles extraordinaires. Ils ont vu Lazare sortir de la tombe, ils ont vu le fils de la veuve ressusciter, ils ont vu Jésus parler à la tempête, ils ont vu la multiplication des pains, et ils ne se sont pas repentis tous. Il y a un certain nombre, oui, mais d'autres, non. Et ici, dans cette dernière tentation, on peut dire, il y a encore un tri qui va être fait, en fait. Dieu fait un tri entre les vrais et les faux, entre ceux qui sont sincères et ceux qui sont hypocrites. Il va y avoir des gens qui vont se tenir à carreau, si on peut dire, pendant le règne de Christ, mais leur cœur n'est pas avec Dieu. Et dès que Satan sera relâché, ils vont révéler leur vrai nature et leur vrai cœur, et ils vont le suivre. Ils vont s'attaquer au camp des saints, à Jérusalem, là où règne justement, où nous régnerons. Et bien sûr, Dieu ne permettra pas qu'ils s'approchent plus. Un feu les dévorera et ils seront jetés avec le diable dans les temps de feu. Et là, nous arrivons donc à ce passage. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu, où déjà se trouvait la bête, l'antéchrist et le faux prophète. Ça, c'était au chapitre 19. L'étang de feu, le lac de feu, comme vous voulez, c'est le dernier endroit pour les perdus. C'est ce qu'on appelle couramment l'enfer, en fait. Ça ne doit pas être confondu avec le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est là où les morts attendent le jugement dernier. Et au chapitre 20, donc à partir du verset 11, c'est le jugement dernier. Et c'est pour ça qu'il est dit que la mort et le séjour des morts rendent leur mort. C'est-à-dire que les morts qui sont en attente du jugement vont comparaître, voilà, devant le Seigneur. Ça me fait un peu penser à ceux qui sont condamnés à mort dans les prisons américaines. Très souvent, ils peuvent attendre 10 ans, 15 ans. Et alors ils sont là, ils savent qu'ils vont être exécutés un jour ou l'autre, ils ne savent pas quand, et ils attendent des années, des années. Puis un jour, ah, c'est l'heure, ça y est, ça a été prononcé, tu vas mourir demain. Ça doit être dur, ça doit être terrible à vivre. Parce que vous vous habituez à vivre quand même. Et là, eh bien ce sera un peu similaire. Nous voyons que Satan est jeté dans l'étang de feu parce que l'étang de feu a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est ce que Jésus avait dit. Malheureusement, des hommes vont y aller aussi parce qu'ils vont préférer Satan à Dieu. Comment peut-on préférer Satan à Dieu? J'ai du mal à le comprendre, mais ça existe. Parce que Satan vous promet la facilité, les raccourcis, la gloire, la séduction, le pouvoir. Il encourage votre convoitise, il encourage votre perversité, il encourage votre orgueil. Et il y a des gens qui aiment ça, des gens qui veulent ça. Je me rappellerai toujours du témoignage de cette femme qui était ouvertement sorcière. Alors pas la sorcière avec son chaudron, mais elle exerçait la sorcellerie avec des rites magiques pour s'attaquer à des gens avec des poupées, avec toutes sortes de rites. Et quand les journalistes l'interviewaient, lui demandaient, mais alors, comment vous êtes devenue sorcière et tout ça? Elle dit, ben un jour, je suis d'origine juive. Et on m'avait toujours appris, on m'avait parlé de Yahvé. Et quand j'étais enfant, je connaissais le Dieu, mais Satan, il promet des choses beaucoup mieux. Et alors, quand j'ai entendu ça, je dis, c'est pas possible. Elle pense ce qu'elle dit ou... Avec Yahvé, il y a des lois, on n'est pas libre, et puis Yahvé est en colère, on ne sait pas. Avec Satan, j'ai eu la liberté, je me sens libre, je me sens femme, je fais ce que je veux, etc. Enfin, voilà. Il y a des gens qui préfèrent Satan. Verset 11, je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. Donc ça suit le règne millénaire. À la fin du règne millénaire de Christ, il y a cette révolte, dernière révolte, qui est réprimée par le feu du ciel. Satan est jeté dans les temps de feu où il ne sortira plus jamais pour l'éternité. Et c'est le moment, c'est l'heure du jugement. Dieu vient sur son trône, qu'on appelle le grand trône blanc. C'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Qui est sur le trône? Bien, nous croyons que c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Dieu a remis tout jugement au Fils.
Donc ça suit le règne millénaire.
Dieu est assis dessus et la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. C'est une expression vraiment pour dire qu'il est tellement saint que même la terre et le ciel ne supportent pas sa présence. C'est la sainteté absolue du Créateur, de Dieu. Cette sainteté, Dieu nous en préserve parce qu'elle nous tuerait tous. Elle consumerait la terre en une seconde. Et quand Dieu est venu en la personne de Jésus, il est venu justement saintement, mais il est venu avec la grâce. Il est venu nous sauver, nous pardonner. Mais Dieu n'en reste pas moins saint, trois fois saint. Et cette sainteté va s'exercer à ce moment-là. Les morts vont être rejetés de la mort et même de la mer, hein, parce qu'on se dit, et ceux qui ne sont pas enterrés, il y a toujours cette question un peu, hein, si vous êtes mort, noyé, votre corps n'est pas dans la terre, alors est-ce qu'il va disparaître? Non, c'est pareil. La résurrection, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui sont morts, et j'aime bien, ça dit petits et grands. Quand on est grand dans ce monde, hein, quand on est puissant, quand on est très riche, on se dit, je vais échapper. J'ai toujours échappé. Voilà, avec les Panama Papers, j'ai échappé au fisc. Alors je vais échapper à Dieu. Oui, mais vous n'avez pas pris le bon avocat. Parce que pour échapper au fisc, il faut avoir des avocats spécialisés, hein, qui vous donnent les combines. Mais si vous ne prenez pas Jésus pour avocat, si vous prenez Satan qui va vous promettre justement le plaisir, la facilité, vous ne serez pas défendu. Et là, devant le trône blanc, vous serez condamné. On remarque devant ce jugement, il n'y a pas de salut en fait. Les hommes sont jugés selon leurs œuvres. Et c'est un peu étonnant, on dit, mais on est sauvé par la foi, on n'est pas sauvé par les œuvres. Pourquoi les hommes sont jugés selon leurs œuvres? Parce qu'ils sont en fait condamnés selon leurs œuvres. Il n'y a pas question d'être épargné là. C'est le jugement des réprouvés, des impies, de ceux qui ne se repentent pas. C'est un jugement pour ceux qui ne sont pas dans le livre de vie. On peut mettre l'image, c'est juste une représentation, mais c'est pendant 2 secondes. Voilà. On voit la personne en bas qui est devant le trône blanc et des livres sont ouverts. Voilà, tu peux cacher, merci. Nous serons là, nous ne serons pas là. Mais les personnes qui ont refusé le salut seront là. Alors, il y aura des gens très bien aussi, très moraux, il n'y aura pas que des criminels endurcis, il y aura des gens, mais qui ont refusé le salut en Jésus-Christ. Ils seront là devant Dieu et la sainteté va briller d'une façon insupportable, déjà. Et des livres seront ouverts. Qu'est-ce que contiennent ces livres? La Bible ne le dit pas, mais on peut le deviner. C'est que c'est les œuvres. Ce sont nos œuvres. Et à chaque personne, Dieu va dire, voilà, j'ai ta vie là. Toute ta vie est là. Toutes tes œuvres. Mais il n'y a rien de bien. Il n'y a rien de bien. Et je ne peux pas t'accepter dans ma présence. Je ne peux pas te pardonner. Ton nom n'est pas dans le livre de vie. Alors ça, c'est quelque chose d'effrayant aussi. C'est qu'il y a un autre livre. Il y a un deuxième livre qui est le livre de vie. Et là, il y a des noms dedans. Il y a toute une liste. C'est comme un annuaire un peu. Et ça me fait penser, à une moindre mesure, quand on a passé son bac, on cherche son nom sur la liste. Frénétiquement. Est-ce que mon nom est sur la liste? Eh bien là, je pense qu'il y a des gens qui vont attendre, ils vont dire, mais mon nom, mes parents m'ont élevé dans la foi, je suis d'un pays chrétien, j'ai été baptisé bébé, mon nom doit être dans la liste. Est-ce que tu as un jour reçu Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu t'es tourné vers lui? Est-ce que tu t'es repenti? Non, mais j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ma profession de foi. Mais tout ça ne vaudra rien devant la sainteté de Dieu, devant la justice. Pour avoir son nom dans le livre de vie, il appartient à qui le livre de vie? Là, qu'est-ce qu'il est dit? Mes parents m'ont élevé dans la foi. Non, c'est pas là que c'est dit, justement. Pardon. C'est ailleurs dans l'Apocalypse qui est dit que c'est le livre de vie de qui? Il y a une autre expression. De l'agneau. Le livre de vie de l'agneau. Et il faut appartenir à l'agneau pour être dans ce livre de vie. Il faut avoir cru en l'agneau, avoir été pardonné par le sang précieux de cet agneau. Mais si on vient avec ses œuvres, eh bien oui, les œuvres sont dans le livre. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, verset 5, je vais vous le lire. Romains 2, 5. Par ton endurcissement. Alors déjà même le 4. Méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, de sa patience, de sa longanimité? Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent qui ne veut pas se repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Tu amasses un trésor de colère. C'est-à-dire lorsqu'on ne se repent pas, lorsqu'on ne reconnaît pas la bonté de Dieu dans sa vie, lorsqu'on ne veut pas rendre grâce à Dieu, ce qu'on fait, et c'est une sorte de on amasse, et tout ça est dans le trésor de colère, tout ça est dans le livre qui est ouvert à la fin. Et quand ce livre est lu, on n'a rien à dire. Il n'y a que du mal. Il n'y a rien de bon, rien de juste en nous. Et même les choses qu'on croit bonnes, nous, elles sont entachées de péché, d'orgueil souvent, de mauvaises intentions. On fait les choses, mais dans un but manipulateur. Et tout cela sera dévoilé. Plus personne ne pourra se cacher ou échapper à la justice. Ce jour-là, c'est la fin. Chacun fut jugé selon ses œuvres, dit l'Apocalypse. C'est la seconde mort. Il avait dit un peu plus tôt, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Sous-entendu, malheur à ceux qui sont dans la deuxième résurrection, dans la seconde mort. Il y a deux morts, pas pour chaque personne. La première mort, c'est quand... Et la première résurrection, c'est pour ceux qui croient. Ils ressuscitent pour la vie éternelle, dit la Bible. La seconde mort et la seconde résurrection, c'est pour ceux qui n'ont pas cru. Ils ressuscitent pour la honte éternelle. C'est Daniel qui écrit ça au chapitre 12. Il dit, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, donc ressusciteront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. » Il y aura deux résurrections. Deux morts, la mort de ceux qui sont dans le Seigneur, qui ressusciteront pour la vie éternelle, et la mort de ceux qui sont sans le Seigneur, qui ressusciteront pour la honte éternelle, pour aller dans l'étang ardent de feu. Le jugement dernier n'est pas un tribunal où vous pouvez vous en sortir. C'est un tribunal de condamnation. Pour vous en sortir, il faut avoir cru avant. Qu'est-ce que dit la Bible sur ceux qui ont cru? Romains 8, 1, est-ce que vous connaissez ce verset par cœur? Il n'y a maintenant en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation si on est en Jésus-Christ. C'est cette expression pour dire qu'on est dans la foi en Jésus-Christ, qu'on est chrétien. Aucune condamnation. Je ne peux pas être condamné. Je ne peux pas arriver là si j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Moi, je ne serai pas là. Je le sais parce que Dieu l'a promis. Ceux qui sont là, ce sont ceux qui n'ont pas voulu se repentir. Romains 8, 1. Est-ce que vous connaissez ce verset par cœur? Il y a maintenant... C'est le passage peut-être le plus solennel de la Bible, le jugement dernier. Et on ne doit pas le prendre à la légère. Imaginez que vous arriviez devant Dieu en vous disant, quand même, je ne suis pas... Je suis pas un tueur en série, je suis pas quelqu'un de, j'ai pas fait de prison, j'ai même jamais volé dans ma vie, j'ai tué personne. Donc quand même Dieu va voir. Mais quand on dit ça, c'est qu'on ne réalise pas la sainteté de Dieu. Mais toutes les fois où tu as menti, toutes les fois où tu as dit du mal, où tu as calomnié, où tu as voulu du mal, tu as pensé du mal, où tu as tué en pensée des gens, toutes les fois où, au lieu de faire le bien, d'obéir à Dieu, d'écouter Dieu qui se révélait à toi, tu as dit « Non, laisse-moi tranquille » et tu as choisi ton chemin. Toutes ces fois où tu as repoussé le témoignage peut-être d'un chrétien, parfois c'est quelqu'un de proche, qui prie pour vous, qui vous aime, qui dit « Écoute, viens au Seigneur, il t'aime ». Oh, laisse-moi tranquille avec tes bondieuseries. Ah, c'est facile à faire sur la terre, mais quand on sera devant Dieu, on va se rappeler les gens vont se rappeler. J'ai raté mes chances. J'ai raté toutes mes chances. Je n'ai pas écouté. J'ai été stupide. Et maintenant, je suis condamné. Alors, si Dieu a envoyé son Fils, c'est pour que personne n'aille là. C'est pour que nous soyons tous sauvés. Et la Bible nous invite à aller apporter la bonne nouvelle. Nous prêchons une bonne nouvelle, mais dans la bonne nouvelle, il y a la mauvaise nouvelle. C'est qu'il y a un jugement. Si on ne parle jamais du jugement, les gens disent, moi, j'ai pas besoin de Dieu, hein, tout va bien. Toi, t'es content avec Dieu, mais moi, j'ai pas besoin. Quand je vais mourir, je vais mourir, puis voilà, je vais disparaître. Non, quand tu vas mourir, il y a un jugement. Après la mort vient le jugement, dit la Bible. Qu'est-ce que va t'arriver à ce jugement? Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu n'auras rien à dire pour ta défense devant le Dieu trois fois saint. Tu n'as qu'un seul défenseur, qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Et c'est maintenant qu'il faut le prendre pour être sauvé. Il nous accueille tel qu'on est, avec nos péchés, avec nos faiblesses, et il nous pardonne, il nous sauve, il nous donne la vie éternelle, et il dit « Elles ne périront jamais ceux qui croient en moi. Elles ne périront jamais. Elles n'iront jamais dans les temps de feu. Elles n'iront jamais devant le tribunal là, du grand trône blanc. Parce qu'elles sont sauvées. Elles ont part à la première résurrection. Et c'est un cadeau magnifique que le Seigneur nous a fait. Nous devons vraiment le remercier tous les jours. Et nous devons penser à ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Amen. On va chanter...